Merci pour tout ce que nous avons entendu, ces chants. Je ne crois pas qu'il y ait sur la terre quelque chose qui donne le plus ce désir de chanter, d'exprimer, sans vraiment se lasser. Seigneur, remplis les cœurs de ce désir de le louer. Nous avons chanté le premier Noël, tentant de relater tout à l'heure, je pense, ce qui s'était passé là, il y a plus de 2000 ans, dans cette contrée lointaine, hein, aux environs de Bethléem, où des anges sont venus annoncer à des bergers la naissance de Jésus. Et puis depuis, que de concerts, que de tableaux, que de poèmes, pour tenter de capter peut-être l'atmosphère de cet événement-là. Et nous voulons essayer, nous aussi, de déceler un peu quelques accents de cet oratorio, de ce tout premier concert qui a eu lieu il y a bien longtemps. Et pour entendre les sonorités de ce concert-là, il nous faut lire dans le livre de Luc, au chapitre 2. Je vais lire pour vous si vous n'avez pas la Bible. Mais Luc, au chapitre 2, nous relate ce tout premier concert. Luc 2, à partir du verset 8, il est écrit « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Voilà, c'est le récit, je crois. Bon, la Bible ne dit pas que c'était des chants, mais on peut imaginer, ça ne changera rien à l'histoire, que c'était un chœur avec des chants. Et je voudrais vous faire remarquer, je ne sais pas si vous avez remarqué, quels étaient les concertistes qu'il y avait dans ce chœur. C'était non pas des hommes, non pas des femmes, mais la Bible dit que c'était les anges de Dieu. Avez-vous remarqué aussi l'auditoire de ce premier concert? C'était de simples bergers, les seuls êtres, je crois, qui, sur la terre, qui a eu le privilège d'entendre un Gloria in excelsis Deo dans la langue des anges, dans leur langue, mais en tout cas chanté par les anges de Dieu, eh bien, c'était une poignée de bergers habitués à la symphonie des bêlements de brebis. Et c'est à eux que Dieu s'est adressé, c'est à eux qu'il a dépêché, qu'il a donné la primeur, je crois, des premiers accords célestes lorsque, eh bien, Jésus est entré dans ce monde. On ne connaît ni la musique, ni les airs, ni les mélodies, ni l'équilibre harmonique, ni l'expression vocale des participants de ce concert. Ce qui nous est conservé par le Saint-Esprit, eh bien, ce sont deux choses, je dirais, l'atmosphère à la fois glorieuse et profondément terrifiante de ce premier concert. Et puis, bien sûr, les paroles, le message de cette immense chorale. D'abord, les paroles d'un soliste qui donne le message principal de ce concert et qui dit « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Et puis vient le chœur avec cette magnifique doxologie qui exprime vraiment la répercussion, les répercussions de ce message. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Alors je vous propose, moi, à cette époque qui est propice au concert, de tenter de nous plonger nous aussi dans cette atmosphère, l'atmosphère de ce concert, et d'essayer peut-être de dégager quels étaient les thèmes majeurs. Je vous en propose deux, juste deux. Eh bien, c'est que il est question ici d'une adoration bien explicite de la part des anges. Il est clair que le cœur adore Dieu. Et cette adoration a pour thème central l'incarnation du Fils de Dieu. Dieu fait chair. Elle exprime d'abord que l'incarnation de Christ glorifie Dieu au plus haut point. Le premier accent de louange que l'on lit ici, c'est « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Et donc Dieu est pleinement glorifié par ce qui vient de se passer. L'annonce que l'ange vient de faire au berger en disant « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur » est la raison principale de cette louange, et ils expriment que cette incarnation du Fils de Dieu, eh bien, glorifie Dieu au plus haut point. Tout l'univers, tout dans l'univers glorifie Dieu. Toutes ses œuvres le louent, nous dit la Bible. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1 que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans tous ses ouvrages. Il dit que les hommes sont inexcusables parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Donc il y avait de quoi glorifier Dieu à travers ce que l'on pouvait voir de sa création. Tout dans la nature glorifie Dieu et le révèle. Que ce soit le monde animal, que ce soit le monde végétal, tout le glorifie. Mais ici, on est devant un événement qui est plus que la création des étoiles, qui est plus que le fait de répandre les astres dans les cieux. Il s'agit de l'incarnation du Fils éternel de Dieu. Et rien ici ne glorifie autant Dieu que l'incarnation de son propre Fils. Car le Fils de Dieu, dit la Bible, est le reflet de la gloire de Dieu. L'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6, « Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » L'apôtre Jean, lui, s'était écrié, « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Et puis encore, d'autres passages peuvent exprimer cela. On ne peut pas tous les lire. Mais l'incarnation magnifie la grâce de Dieu. Vous connaissez la grâce de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Pardon, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichi. On parle ici de l'incarnation. Dieu, le Seigneur, qui de riche qu'il était, s'est fait pauvre. Et il dit que c'est la grâce de Dieu qui est exprimée ainsi. L'incarnation du Fils de Dieu magnifie la justice aussi de Dieu. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, et bien Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à la nôtre, à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Romains chapitre 8, versets 3 et 4. Donc l'incarnation magnifie, glorifie Dieu dans sa justice. L'incarnation glorifie Dieu au plus haut point, car elle glorifie Dieu tout seul. L'homme n'a rien là-dedans. Les anges chantent « Gloire à Dieu ». Il n'y a aucune gloire pour les hommes là-dedans. Et Et seul Dieu peut être glorifié dans cet événement. Lorsque Jésus était dans le jardin, il a prié ceci en disant « Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu. C'est pour cette heure que j'ai été incarné. C'est pour souffrir, pour mourir, pour offrir ma vie. » Il ajoute « Père, glorifie ton nom. » Et une voix vient du ciel et dit « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Parce que Dieu est glorifié dans l'incarnation de son Fils Jésus-Christ. Les anges ont connu Dieu sur son trône quand il a créé l'univers, distribuant souverainement les étoiles, appelant à l'existence ce qui n'est pas. Ils l'ont connu sur son trône, la Bible dit, lors du déluge. Lors du déluge, Dieu était sur son trône. Mais ici, les anges observent Dieu descendre de son trône, de clarté, de son ciel, de pureté, pour devenir homme et entrer dans notre humanité comme un bébé. Et ils chantent et ils disent que le caractère de cet événement-là est tout simplement glorieux. C'est pour cela qu'ils chantent et que pour la première fois, on entend des anges rassemblés et louant Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Par son entrée dans le monde, le Fils de Dieu glorifie son Père par sa vie, par sa mort, par sa résurrection, par son exaltation et par la rédemption éternelle qu'il obtient pour nous. L'incarnation du Fils de Dieu glorifie Dieu au plus haut point. C'est là le premier accent, je pense, de ce concert, mais ce n'est pas le seul, il y en a encore un autre. L'incarnation de Christ est la source de paix parfaite. L'incarnation de Christ est source de paix parfaite. Les anges chantent aussi paix sur la terre aux hommes qu'il agrée. Et en disant cela, il apparaît comme une évidence que jusque-là, la paix ne règne pas sur la terre. Depuis que le péché est entré dans le monde, la paix a déserté les cœurs, les relations entre les hommes, la déserté aussi la relation entre Dieu et les hommes. Et les hommes sont maintenus sous la juste colère de Dieu depuis la chute. L'homme n'est pas en paix avec Dieu, il n'est pas en paix avec lui-même, sa conscience l'accuse continuellement, il n'est pas en paix non plus avec les autres. Qu'un ange du ciel le voit ici avec ses bergers apparaissent et ils sont tout effrayés. Ils ne sont pas dans la joie. Il y a des gens qui pensent que quand ils vont voir un ange, ils vont, c'est majestueux. Mais chaque fois que les anges sont apparus dans la Bible, les hommes étaient effrayés. Ils étaient vraiment très, très apeurés. Et à chaque fois, les anges sont obligés de dire, ne craignez point. Ici, l'ange dit, ne crains point parce que j'annonce une bonne nouvelle. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas que je suis venu apporter. C'est une bonne nouvelle. Alors ne crains point. L'homme aspire à la paix et la recherche ardemment, sans jamais pouvoir l'atteindre. Il organise des conférences pour la paix, des marches pour la paix, des concerts pour la paix, des journées mondiales, des journées internationales de la paix. Mais la paix n'est toujours pas là. La paix ne se trouve qu'en celui qui est incarné. Et dont le prophète Ésaïe lui-même, en parlant de l'incarnation, dit ceci, il dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. » Vous allez nous donner le suivant, « Prince de la paix. » L'incarnation de Christ est source de paix véritable. Parce que Christ a été, le Fils de Dieu a été incarné pour expier nos péchés. Et la Bible dit, non, j'ai déjà lu ce passage, mais je vous rappelle que Dieu a puni le péché dans la chair de son Fils. Il ajoute aussi que par sa mort, Dieu a rendu sans effet la loi avec ses ordonnances et les règles afin de créer en lui un seul homme nouveau à partir des deux en établissant la paix. L'apôtre Paul dit en Colossiens que Dieu a voulu par Christ réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par Christ, par le sang de sa croix. Et donc l'incarnation du Christ, du Fils de Dieu, et l'expiation de nos péchés à la croix nous procure la paix véritable. Le châtiment qu'il nous donne, la paix est tombée sur lui. Sur qui? Sur le Christ incarné. L'apôtre Paul dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et on pourrait multiplier les citations de la Bible qui relient notre paix avec l'œuvre de Christ accomplie à la croix du Calvaire. Cette paix qui envahit le cœur quand on sait que le Dieu Saint nous a pardonné, que nos péchés sont effacés, que Dieu nous a déclarés justes. Nous pouvons donc faire la paix avec Dieu et avoir la paix avec nous-mêmes, parce que la Bible dit que le sang de Christ purifie même jusqu'à notre conscience les œuvres mortes, afin que nous puissions servir le Dieu vivant et vrai. Elle nous demande de ne pas nous inquiéter, mais de faire connaître nos besoins à Dieu par les prières, par les supplications. Et il ajoute que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Celui qui place sa confiance en Christ connaît cette véritable paix. Et les anges chantent et ils disent que, eh bien, l'incarnation de Christ est une source de paix parfaite. Et puis un troisième accent aussi, eh bien, c'est que l'incarnation de Christ témoigne de la bonne volonté de Dieu envers les hommes. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre, bienveillance, disent certains textes, envers les hommes. Et l'expression indique ici la bonne volonté de Dieu ou son bon plaisir. En Matthieu 11, par exemple, quand Jésus dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue, de ce que tu l'as voulu ainsi. » C'est le même sens, c'est le bon vouloir de Dieu, c'est la bonne volonté de Dieu. C'est ce que Paul dit quand il parle dans Éphésiens, où il dit que nous avons été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption selon, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est la même expression, la bienveillance, la bienveillante disposition de Dieu à l'égard des hommes. Dieu est favorablement disposé. Et la preuve de cette bonne volonté, la preuve de cette bienveillance est l'incarnation de son Fils, Jésus-Christ. 1 Jean 4, 9 dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Et donc en le faisant devenir homme et prendre une chair semblable à la nôtre, en le faisant devenir péché pour nous, pour que nous devenions en lui justice de Dieu, en le faisant devenir pauvre de riche qu'il était, pour que par sa pauvreté nous fussions enrichis, en le faisant porter nos péchés en son corps sur le bois, en le faisant devenir malédiction pour nous, car maudit est quiconque est pendu au bois, eh bien Dieu manifeste sa bienveillante disposition à l'égard des hommes. Et c'est avec toute cette perspective et certainement plus que les anges expriment cette louange quand ils disent « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre, bienveillance de Dieu envers les hommes qu'il agrée. » Donc c'est une adoration ici bien explicite que ce premier concert des anges. Mais c'est aussi, deuxième thème, plus rapidement aussi, que je voudrais souligner et que j'entends ici, c'est une invitation implicite. Donc une adoration bien explicite, mais une invitation aussi implicite. Et il y a un quatrième accent, si j'ose dire, dans ce concert d'anges, c'est une double invitation. Elle est sous-entendue comme pour les bergers. Premièrement, c'est une invitation à croire au Seigneur Jésus-Christ. Les bergers ont cru à ce que l'ange leur a dit concernant l'enfant de la crèche. Ils sont allés voir. Ce n'est pas une simple information que les anges sont venus leur apporter. Ce n'est pas de quoi égayer leur nuit de routine. Hein. Il n'est pas venu leur offrir de sensations fortes, de frissons. Il est venu, l'ange et les anges sont venus avec un appel à croire à ce sauveur. Et on le voit, les anges, ils obéissent, les bergers, ils obéissent. Ils vont pour voir ce qui s'est passé. Ils ont dit, allons pour voir ce qui nous est raconté. Et si comme des bergers, vous entendez aujourd'hui ce message de l'incarnation du Fils de Dieu, si aujourd'hui vous entendez des chrétiens aussi jouer des instruments de musique, vous entendez une chorale chanter de tout cœur la gloire de ce Seigneur, ce n'est pas juste pour occuper votre après-midi, quelques minutes, vous offrir quelques minutes agréables, vous procurer des frissons sonores, des frayeurs, suivant comment vous avez reçu le son. C'est pour vous inviter à croire, à placer votre confiance dans ce Fils de Dieu qui s'est incarné. Les anges disent, c'est pour vous, aujourd'hui, est né un sauveur. Et ce message-là est encore valable. Pour vous, aujourd'hui, est né un sauveur. On peut ajouter qu'il a donné sa vie pour vous. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Il a pris sur lui vos péchés. Et maintenant, vous pouvez placer votre confiance en lui. Sinon, vous demeurez sous la colère de Dieu. Dieu est bien disposé, disent les gens, disent les anges. Il l'a exprimé en envoyant son Fils. Mais un jour, ce Fils reviendra, non pas pour s'offrir en sacrifice, mais il viendra en juge. Et là, ce sera trop tard. Aujourd'hui, ce concert, comme vous avez entendu, est un concert d'invitation à croire en Jésus. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, c'est l'incarnation, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, versets 9 et 10. Dieu est disposé à vous pardonner. Il le prouve par son Fils incarné. Et une deuxième invitation, ici, c'est une invitation à adorer aussi le Seigneur. Les anges adorent Dieu à cause de son œuvre rédemptrice. Le plan du salut de Dieu remplit ces êtres de louanges et d'adoration. Les anges ne sont pas les bénéficiaires du salut. Ce n'est pas pour eux que le Fils de Dieu s'est incarné. Il n'y a pas de salut pour les anges qui ont péché. Ils sont éternellement voués à la damnation. Le salut est pour les hommes. Et les anges viennent chanter pour les hommes. Et ils ne sont pas les bénéficiaires même de ce qu'ils sont en train de chanter. Mais ils glorifient Dieu. Ils louent Dieu pour une œuvre dont ils ne sont pas les bénéficiaires. Et est-ce que cela ne nous invite pas aussi à louer Dieu? Nous qui l'avons reçu, nous qui pouvons dire, qui pouvons exprimer que oui, Christ m'a racheté. Est-ce que ça n'est pas aussi pour nous, en ce jour, l'occasion de glorifier Dieu comme les anges l'ont fait, de le glorifier avec ferveur, pas du bout des lèvres, de le glorifier continuellement, pas juste aujourd'hui, de le glorifier tous les jours de notre vie, de le glorifier à la manière des anges, c'est-à-dire être capable de lui rendre gloire, même lorsque nous ne sommes pas bénéficiaires des bienfaits qui retombent sur les autres, mais le louer parce qu'il est Dieu pour son œuvre expiatoire. Sommes-nous prêts à quitter nos occupations, comme les bergers l'ont fait, pour venir témoigner, pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ? Nous aussi, disait un des cantiques que nous avons chanté, je termine là-dessus, d'un même cœur, adorons le Seigneur, louons sa majesté et chantons sa bonté. Au peuple fidèle, Jésus vous appelle, triomphant, joyeux, venez en ces lieux. Au peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre foi l'adore, que votre amour l'implore. Et qu'elle chante encore Jésus, le Sauveur. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'adorent.